Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur l'antenne de QG. Pour un début de soirée pas comme les autres, je le dis pour ceux qui ne regardent pas les chaînes d'info et qui ne regardent que QG, de façon prévisible, les votes les motions de défiance contre le gouvernement Borne n'ont pas été adoptées ce soir, ont été rejetées dans un mouchoir de poche, hein, puisque pour la motion Liotte, qui était soutenue par les différents blocs de gauche, on est à 9 voix seulement d'une motion de défiance. Comme prévu, j'ai envie de dire, hein, il y avait eu un frémissement qui avait laissé penser que certains LR allaient prendre leurs responsabilités et faire entendre la voix des 3/4 des Français. Ça n'a pas été suffisant, ça n'a pas été le cas. Alors ce soir, avec nos invités, nous allons essayer de déterminer si ce rejet sera un nouveau carburant pour la lutte, si la lutte va se poursuivre dès ce soir dans la rue, dans tout le pays, dans les usines, dans les raffineries, chez les éboueurs. Dans les gares, ce soir, des dizaines de sites sont bloqués ou en voie de l'être. Je vous présente les deux invités qui sont ce soir à mes côtés, quoique à distance par Zoom. On ne pouvait pas faire autrement. Et tout d'abord, Olivier Mathéu. Olivier, bonsoir.
Bonsoir.
Olivier Mathéu, vous êtes le secrétaire départemental de la CGT des Bouches-du-Rhône. Vous êtes une figure désormais bien identifiée de cette lutte et vous êtes candidat à la succession de Philippe Martinez dans quelques semaines. On en dira quelques mots peut-être. Merci de prendre ce temps alors que nous vous savons bien occupé. Je ne sais pas dans quelle direction vous roulez. Vous nous le direz peut-être aussi. Également avec nous ce soir, Richie Thibault. Bonsoir Richie.
Pourquoi?
Richie, vous êtes une figure connue des Gilets jaunes hein, depuis 2019. Vous êtes déjà venu plusieurs fois sur notre antenne et vous êtes le cofondateur de Peuple Révolté et du média La Luciole. Merci d'être avec nous ce soir. Alors d'abord, j'aimerais avoir votre réaction à ce qui vient de se passer à l'Assemblée nationale à tous les deux. Est-ce que vous êtes surpris, Olivier Mathéu, et est-ce que ça change quoi que ce soit à la situation pour vous?
Alors, surpris, non. Non, parce que, compris, fait la motion telle qu'elle a été posée, elle le renvoyait, qu'on le veuille ou non, à la composition intrinsèque des groupes à l'Assemblée nationale. Et, ben, si compris qu'il y a eu suffisamment de manœuvres pour faire en sorte que les députés, notamment des Républicains qui avaient décidé de ne pas voter la réforme des retraites, suffisamment reçu de pression pour devoir appliquer les consignes de leur famille politique. Quoi qu'il en soit, pour nous, ça ne change pas grand-chose, dans la mesure où il y a de grandes chances que, même si ce gouvernement était venu à tomber, on se serait retrouvé avec un gouvernement qui n'aurait pas été du côté du camp progressiste et qui aurait porté son lot de mesures régressives. S'agissant de la réforme en elle-même, on va continuer à la combattre et on n'a jamais été si près de faire reculer le gouvernement et le patronat. La situation dans le pays va devenir intenable pour eux. Il faudra bien qu'à un moment donné, ils soient responsables.
Alors, je vous pose la question justement, est-ce que d'ici quelques jours, vous pensez qu'on peut vraiment imaginer un retrait de cette réforme?
J'en
Et
suis
même celle de
persuadé.
Macron?
J'en suis persuadé et je ne pratique pas la méthode Couillon. À la fois, la conscience la dangerosité de cette réforme dont on fait preuve, que ce soit les travailleurs en activité, les retraités, les jeunes, les étudiants, démontre que l'opposition est une opposition en conscience. Et l'engagement de toutes ces catégories-là dans la bataille contre la réforme, nous permet d'être assis sur un socle important et qui concrètement dépasse la réforme elle-même. Ça, le gouvernement, pour le moment, il fait comme si il n'entendait pas, voire même il tente de condamner le fait que certains mettent dans les revendications autre chose que le retrait de la réforme, mais il ne va pas s'en sortir avec ça. La colère, elle est trop profonde. La réalité, oui, c'est qu'au moment où, on annonçait à nouveau des scores faramineux de dividendes versés aux actionnaires du CAC 40, au moment où les prix explosent, on vient nous expliquer qu'il faut travailler 2 ans de plus. Ça veut dire du chômage plus longtemps pour notre jeunesse et encore plus de galères pour ceux qui sont retrouvés à la retraite, hein, qui auraient pu s'y retrouver. Donc, ils ne vont pas s'en sortir avec ça.
Pecci, est-ce que ce qui se passe à l'Assemblée nationale a encore un intérêt pour la jeunesse ?
Bon, très sincèrement, ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale avec le vote sur cette motion de censure ne m'étonne pas, ne me surprend pas. Et je pense que les jeunes s'y attendaient parce que les jeunes ont une réelle défiance vis-à-vis de cette institution qui ne représente plus nos aspirations et qui est totalement déconnectée de nos réalités, des urgences qui sont les nôtres et notamment l'urgence écologique. Très sincèrement, en ce qui me concerne, je n'attendais rien en termes de potentielle censure du gouvernement de la part d'une assemblée dans laquelle siègent 89 députés d'extrême droite et un immense bloc bourgeois. Je pense que nous n'avons rien à attendre de ces gens-là qui, pour la plupart, sont déconnectés de nos réalités et pour qui l'argent a bien plus de valeur que la vie des gens et qui sont de simples exécutants pour les...
Richie, tu as coupé ton micro. Ton micro est coupé, Richie. Voilà.
Pardon, ça a coupé. Vous m'entendez ?
Oui, oui. On t'entend.
Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que le vote sur cette motion de censure qui a échoué permet de clarifier les choses en quelque sorte et de motiver les gens, du moins de permettre à toutes et tous de prendre conscience que les seuls qui peuvent se faire entendre, que les seuls qui peuvent gagner cette bataille, eh bien, c'est devront la subir. Celles qui seront victimes de cette réforme, celles et ceux qui seront condamnés à se casser le dos 2 ans de plus au travail, alors qu'arrivés à leurs 50 ans, elles n'en peuvent déjà plus, nos parents n'en peuvent déjà plus en ce qui concerne les jeunes. Et donc, voilà, prenons conscience que ce n'est pas l'Assemblée nationale, c'est pas au sein de l'Assemblée nationale que nous obtiendrons une victoire pour faire reculer cette réforme, mais c'est la rue, c'est le mouvement social qui va s'organiser, qui va amplifier le rapport de force et qui va faire en sorte que toutes et tous on puisse faire échouer et reculer le gouvernement sur cette réforme, mais bien au-delà, faire en sorte que l'on puisse gagner la bataille sociale, la bataille idéologique, c'est-à-dire faire en sorte que l'on puisse faire triompher notre modèle social sur leur prédation libérale. Notre modèle social, c'est celui de la solidarité, celui qui est fondé sur la solidarité, afin de mettre en échec leur modèle social, entre guillemets, à eux, qui est uniquement, exclusivement fondé sur le libre marché, la concurrence à outrance. Donc voilà les enjeux qui sont bien plus larges que cette réforme des retraites.
Alors, Olivier Mathieu, vous êtes en train de plonger dans le noir de l'autoroute. Est-ce qu'on peut avoir une petite source lumineuse pour vous voir tout de même ?
On va essayer d'éclairer un peu la pièce. Mais...
Voilà, ce n'est pas les sunlights des tropiques, mais c'est mieux que rien.
C'est une voiture électrique, et effectivement, d'accord. Je suis contraint à l'économie.
À la guerre comme à la guerre, on va dire. Bon.
Alors, ça va un peu mieux là ou pas ?
Oui, ça va. On vous reconnaît en tout cas. C'est déjà ça. C'est plus Dark Vador. Donc, Olivier Mathieu, justement, donc on a compris qu'à l'Assemblée, enfin, certains ont enfin compris qu'à l'Assemblée, il ne se passerait rien. D'abord, j'ai envie de vous poser la question. Est-ce que du côté de l'intersyndical, ça va tenir ? Est-ce que, on sait qu'il y a une manifestation nationale ce jeudi, mais est-ce qu'il n'y a pas tout de même un risque à partir de maintenant qu'une fois de plus, l'intersyndicale, je pense notamment au maillon faible, la CFDT, serve de roue de secours à un gouvernement aux abois ?
Écoutez, cette question, en fait, il faudrait la poser à la CFDT, qui sera comptable de ses décisions. Ce qui est certain, c'est que nous, dans le département, l'unité syndicale, on a toujours considéré que c'était une conséquence de l'unité des travailleurs. Quand on voit la détermination mise dans la bataille par les travailleurs, par les jeunes, par les retraités, je pense que l'organisation qui viendrait à nous expliquer qu'il n'y a plus rien à faire ou que la réforme serait devenue bonne parce que la motion de censure n'a pas été votée ou le 49.3 a été validé, cette organisation-là prend le risque de se couper de tous ceux qui sont en lutte aujourd'hui et d'être placés dans le camp de ceux qui auront contribué à nous faire travailler 2 ans de plus. Donc, moi, je pense que sans naïveté, si le niveau de mobilisation dans les entreprises, les collectivités, dans la rue, dans les facs, les lycées, il se maintient, voire il grandit, de fait, l'unité syndicale devra tenir comme on le tient depuis 2 mois et quelques. Après, encore une fois, je vous le redis, ceux qui choisiront d'arrêter le combat, ils seront comptables de leur décision. On ne va pas venir demander à la CGT des explications sur les choix des uns et des autres.
Alors, est-ce que vous disiez tout à l'heure, le problème, le combat n'est plus tellement la réforme des retraites en soi, ça va beaucoup plus loin. Est-ce que cette contestation peut, selon vous, vraiment, est-ce qu'on est à un moment décisif historiquement, est-ce que cette contestation peut vraiment déboucher, par exemple, sur une grève générale de masse qu'on n'a pas vue depuis des dizaines d'années?
Écoutez, ça tient essentiellement encore une fois aux décisions que les travailleurs prendront dans le pays. Nous, c'est, comment dire, à l'évocation de la grève générale, on est souvent critiqué, moqué. Plutôt que de parler de grève générale, on va parler de grève partout et sur la durée, dans la reconduction. C'est pas que j'assume pas, hein, mais ça a été tellement galvaudé le concept de grève générale que on nous fait passer par des chemins qui sont peut-être parfois un peu plus durs à expliquer. Mais ce qui est certain, c'est que si tout le monde arrête le travail en même temps et s'organise pour durer, le mouvement en cours peut être porteur d'énormément d'acquis profitables aux travailleurs à nos anciens et aux générations futures, c'est certain. Les moyens, de toute façon, existent pour faire du progrès social dans ce pays. Voilà. Et je veux juste dire, pas par gentillesse, mais je suis d'accord avec tout ce que j'ai entendu de la part de Richie. Je me trompe pas dans le prénom.
Merci, Olivier.
Non, non, mais voilà, on a fait ce qu'on a pu au moment où les Gilets jaunes étaient au combat pour, en tout cas, à partir de tout ce qui nous rassemblait, essayer de faire le maximum de choses ensemble. Beaucoup des deux côtés se sont acharnés à expliquer qu'on n'avait aucun point commun ni aucun intérêt commun, ce qui est absolument faux. Un travailleur, c'est un travailleur, quelle que soit la couleur de son gilet. Et on est toujours plus efficace quand on est rassemblé que quand on est divisé, ce qui fait le jeu en permanence du pouvoir et du patronat. Quand ça va pas, on le dit, mais quand ça va, il faut le dire aussi.
Richie, est-ce qu'il y a encore du côté des Gilets jaunes, un milieu que tu connais très bien, toi aussi, justement de la rancœur à l'égard des syndicats, et où est-ce que vraiment le moment de la fusion véritable est en train de se produire à l'occasion de cette réforme?
Mais revenir déjà sur la rancœur qui a existé, expliquer pourquoi elle existait à l'égard des syndicats de la part des Gilets jaunes. Elle provient du fait d'une absence de confiance en tous les corps et toutes les institutions établies, ce qu'on qualifie, ce que le pouvoir qualifie de corps intermédiaires. C'est-à-dire que lorsque les Gilets jaunes, lorsqu'on a été sur les ronds-points, on s'est dit on a été trahi depuis des années, on a vu ces organisations qui ne font que discuter avec le pouvoir, se compromettre. La réalité, c'est que c'est un constat qui est galvaudé si on ne se tient qu'à cela. Parce qu'en réalité, il y a des antennes syndicales, des confédérations certaines qui, elles, ont toujours été dans le combat. Et il me semble qu'en ce qui concerne concerne la CGT Bouches-du-Rhône, on est plutôt sur une antenne combative qui est dans une logique d'offensive et non uniquement dans une logique de pseudo-dialogue, de pseudo-discussion visant à trouver un compromis équitable à la fois pour les travailleurs et pour le patronat, ce qui est une illusion absolue. Donc, en fait, les choses sont loin d'être aussi simples. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu des trahisons de la part de beaucoup de centrales syndicales réformistes. Il y a eu une trahison de leur identité propre. C'est-à-dire que l'inspiration, le fondement du syndicalisme en France est un fondement révolutionnaire. Et cette fois-ci, je le dis en tant qu'étudiant en histoire. Vous savez, il y a beaucoup de références à la charte d'Amiens, notamment de la part de Laurent Berger. Mais le premier à trahir cette charte, c'est lui. C'est lui parce qu'il ne respecte pas l'orientation de la lutte des classes, l'orientation révolutionnaire que devrait avoir le syndicalisme, que le syndicalisme avait adopté fut un temps. Et donc, ces multiples compromissions ont engendré une absence de confiance et une généralisation du dégoût à l'égard des structures syndicales. Moi, ce que je dis aux camarades gilets jaunes, c'est qu'aujourd'hui, il y a une catégorie de la population qui paie, une catégorie de la population qui en prend plein le dos. C'est celles et ceux qui n'ont que leur force de travail pour vivre. Celles et ceux à qui on ne donne rien, mais qui doivent tout conquérir à la sueur de leur front. C'est nous, c'est la majorité, c'est ceux qu'on appelle le peuple ou les classes laborieuses. Et aujourd'hui, il faut qu'on s'organise. Certains s'organisent au sein de structures syndicales, comme le fait Olivier et ses camarades. D'autres préfèrent le faire de manière autonome sur le plan politique, par le biais d'un mouvement spontané et populaire, comme l'a été le mouvement des Gilets jaunes. Aujourd'hui, ce qui est clair, c'est que l'on doit converger, parce que ceux qui nous fracassent, ceux qui nous tapent dessus, ceux qui nous retirent tous nos droits, ceux qui nous considèrent comme que de la merde, eh bien, eux, ils sont unis, parce que eux, ils ont compris. Cette petite minorité bourgeoise, elle a compris qu'elle a des intérêts communs et qu'elle doit être unie pour les défendre. Alors, soyons un peu plus intelligents qu'eux, et nous pouvons parce que nous sommes plus nombreux. Et comprenons que nous avons tout à converger. Et il n'y a qu'en convergeant que nous réussirons à les mettre hors d'état de nuire. Et au bout d'un moment, il faut que les choses soient claires. En ce moment, avec ce mouvement social de la réforme des retraites, il y a des syndicalistes de la CGT et de Sud qui prennent tout aussi cher que les Gilets jaunes. On se fait tous tabasser sans distinction. Parce que le pouvoir, il nous voit, il nous perçoit comme des gens qui cherchent à défendre leur dû, à défendre leur dignité. Il nous voit de la même manière. Alors nous, soyons conscients de notre appartenance à une classe commune, du fait que nos intérêts sont communs. Luttons ensemble, car il n'y a qu'ainsi que nous pourrons les vaincre et les mettre à genoux. Eux qui ont pris la confiance et qui pensent qu'ils peuvent continuer à nous tabasser indéfiniment avec notre docilité absolue.
Olivier Mathéus, je ne sais pas si vous nous entendez sur...
Alors, je vous entends et je voudrais qu'on s'entende sur une chose. Oui. Ou vous dites Mathieu ou Mathéo, mais l'entre-deux, il ne me va pas.
Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Non, mais comment...
En français, Mathieu, en espagnol, Mathéo, mais Mathéu, je ne sais pas qui c'est.
D'accord. Mathieu, alors. Mathieu.
Voilà.
Mathieu, ça oriente vers une autre piste, ouais. Comme vous préférez. D'accord.
Non, mais à votre convenance, mais pas l'entre-deux, quoi. Voilà, il faut choisir son...
Alors, je ne sais pas qui était, c'est dans l'entre-deux, je ne sais pas si c'est moi. OK. Comment vous vous situez, Olivier Mathieu, par rapport au mouvement spontané qu'on a vu s'initier dès le soir de l'usage du 49-3, notamment sur la place de la Concorde et dans beaucoup de grandes villes de France? On sait qu'à la CGT, il y a toujours un certain malaise par rapport à ce genre de mouvement basiste. Et du coup, d'ailleurs, d'absence de réaction de la tête de la CGT, je pense à Philippe Martinez, par rapport aux violences policières subies par ces gens qui manifestent spontanément. Quelle est votre position à vous spécifiquement par rapport à ça ?
De ces mots-là, moi, je considère que, en réalité, dans le combat, tout s'additionne. Et si quelque organisation ou personnalité détiendrait la recette pour nous mener à la gagne, ça se saurait. Chacun s'organise à l'endroit où il est, comme il pense devoir s'organiser. Moi, je considère que on est plus efficace en étant syndiqué à la CGT. J'entends aussi que, pour diverses raisons, d'autres choisissent d'autres formes d'organisation. Le tout, c'est de ne pas se retrouver en concurrence et, encore une fois, faire le jeu de ceux qui nous veulent et qui
souvent... On vous entend mal, là.
Et
Vous m'entendez mal là? Vous m'entendez mieux là ou
là,
pas?
C'est mieux là. Là, c'est mieux. Ouais.
Mais, je dis, il faut faire en sorte de ne pas faire le jeu de ceux qui nous veulent diviser. Malheureusement, il y arrive trop souvent. Mais à partir du moment où les objectifs sont communs et l'adversaire est commun, il n'y a pas à chercher à le leadership, l'hégémonie et à s'opposer avec quelque forme de lutte que ce soit. Le tout, c'est qu'au bout, ce soit l'intérêt des travailleurs et des populations qui soient gagnants, simplement.
Non. Alors, justement...
Excusez-moi, je fais une marche arrière avec cette nouvelle voiture. Je comprends
rien,
il n'y a
mais
pas
on
de
voit
bruit.
toutes vos manœuvres automobiles. Hein. On les suit en direct avec
C'est
plusieurs
spectaculaire,
milliers de personnes.
On dirait une fusée. Ça y est, je suis calé, je ne bouge plus.
Ah, c'est parfait, parfait. Richie, justement, il y a eu à peu près du mouvement tous les soirs hein, depuis le 49.3, un petit peu moins hier soir, mais c'était un dimanche soir, c'était une veille de bac, c'était une veille de boulot, c'était voilà, une veille aussi d'espoir, hein, peut-être, qui avait fait naître cette motion de défiance, malheureusement, motion de censure, et qui est déçue ce soir. Est-ce que vous pensez que ça va néanmoins continuer, se généraliser, s'amplifier, notamment du côté de la jeunesse?
Alors, ce n'est pas que je pense, c'est que c'est une nécessité absolue, c'est impératif. C'est-à-dire que si on ne fait pas ça, si on ne se mobilise pas, si on n'amplifie pas la mobilisation, eh bien, il y a peu de chances qu'on puisse espérer relever la tête un jour et tendre vers un avenir.
On t'entend plus, Richie.
Désolé, je vous appelle des amis sans manif. Non, simplement prendre 30 secondes pour souligner le fait que cette mobilisation spontanée, qui ne consiste pas à se réunir de la place de la République jusqu'à la place de la nation de manière très éloignée des lieux de pouvoir. Cette mobilisation qui est difficilement contrôlable pour la préfecture de police et pour ses sous-fifres, eh bien, elle fait peur, elle terrorise, preuve étant que la violence policière se déchaîne et que la seule arme qu'ils ont à leur disposition pour répondre à cette contestation, c'est la violence, la brutalité. Et moi, je veux adresser toute ma solidarité aux camarades qui font 24 heures, 48 heures, jusqu'à 72 heures de garde à vue pour avoir commis ce qui est devenu un crime de la police. C'est-à-dire le fait de s'être levé pour avoir défendu ses droits. Aujourd'hui, M. Macron, la seule chose qu'il connaît, c'est la réquisition, c'est la répression, c'est le 49-3, le LBD-40 et les procédures accélérées. Et face à cela, les gens et les jeunes au premier chef ont compris qu'il faut s'organiser, qu'il faut discuter, qu'il faut intensifier le rapport de force, qu'il faut être là où ils ne s'y attendent pas, qu'il faut être partout, qu'il faut être mobilisé nuit et jour, tous les jours en continu, comme on le fait depuis jeudi dernier. Et donc, voilà. Aujourd'hui, prenons conscience qu'il est plus que nécessaire d'intensifier les mobilisations et que c'est maintenant ou jamais, parce qu'on est vraiment une période charnière. Et moi, je crains que si on ne se mobilise pas maintenant et si on ne sonne pas le holà maintenant, il ne soit définitivement trop tard. Et je dis ça pourquoi? Parce que hier, je discutais avec une amie lycéenne qui a 15 ans et qui me dit « Richie, j'ai peur de retourner en manifestation parce que j'ai vu mes amis se faire fracturer le crâne sans aucun motif et pisser le sang ». Une lycéenne de 15 ans qui me dit ça. Aujourd'hui, ils sèment la terreur. Ils pensent qu'en arrêtant 600 personnes en 4 jours à Paris, ils vont réussir à étouffer la contestation. Alors les amis et mes amis lycéens et étudiants, le message que je vous adresse, c'est que face à cette répression sanglante, la seule chose qui vaille, la seule solution, c'est l'intensification de la mobilisation. Plus ils tapent, plus on riposte, plus ils font couler le sang, plus on fait bloc, plus ils essaient de nous mettre à genoux, plus nous demeurons debout. Intensifions la mobilisation face à la répression, c'est la seule solution. Multiplions les rendez-vous, soyons intelligents, mettons en place de nouveaux stratagèmes, de nouvelles modalités de lutte, soyons là où ils ne nous attendent plus, parce qu'ils ont perdu l'habitude des gens qui se réunissaient comme en 2018 à 500 mètres de l'Élysée. Donc aujourd'hui, ils ne nous entendent pas, ces gens qui sont au pouvoir, par l'intermédiaire des médias, etc., eh bien, allons nous faire entendre de vive voix à proximité de leur palais et de leur résidence.
Olivier Matteux, on dit que la nouveauté hein, par rapport au mouvement des Gilets jaunes hein, 2018-2019, c'est que ce mouvement s'enracine sur les lieux de travail, revient vers les bases syndicales. Alors, quelle est la situation ce soir, d'après vos informations? Vous êtes dans les Bouches-du-Rhône, mais j'imagine... Vous avez accès à d'autres informations sur le territoire. notamment du côté des raffineries, du côté des éboueurs. On sait qu'il y a des réquisitions qui ont été annoncées par le gouvernement. Comment vous voyez les prochains jours?
Alors, depuis quelques jours, et notamment à la fois en prévision du 49.3 et après le 49.3, on a fait, pour ce qui concerne mon département, rentrer dans la reconductible le port pétrolier de Marseille-Fos, qui avec la CIM au Havre et je ne me rappelle plus le nom de la boîte à Dunkerque, sont les trois principales entrées d'hydrocarbures dans le pays, d'entrée et de sortie. Ils sont venus s'ajouter à toutes les raffineries qui étaient en grève à ce moment-là et qui ont elles-mêmes été rejointes par la dernière raffinerie qui n'était pas en grève. Et on en est maintenant à des phases d'installation, c'est-à-dire que les raffineries ne produisent plus de carburant. Toutes les raffineries du pays sont en grève. Et si je ne me trompe pas, il y en a au moins quatre qui sont en phase d'arrêt ou arrêtées complètement. Les autres font ce qu'on appelle du débit mini, c'est-à-dire de la recirculation de produits, en fermant les expéditions, c'est-à-dire que les dépôts ne sont pas alimentés. Et on s'achemine doucement mais sûrement vers, si ce n'est une pénurie, un manque important de carburant dans les stations de service. La semaine dernière, dans l'ensemble du pays, là, ils essayent de compenser comme des fous par l'importation de produits par camion. Là aussi, hein, quand ces gens-là nous parlent d'écologie, d'environnement, ils ont guère de leçons à nous donner. Ils font venir des camions d'Espagne, d'Italie et de Belgique, si je ne me trompe pas. Mais vous imaginez le nombre de milliers de camions qu'il faudrait pour pouvoir pallier au manque de production et de distribution de l'ensemble du réseau national. Il y a eu la semaine dernière 72 heures de grève sur l'ensemble des ports français, hors de Dunkerque, qui ont fait le choix de quitter la CGT il y a très longtemps et qui ne suivent plus les appels nationaux. Mais là aussi, hein, s'il reste que Dunkerque comme point d'entrée et de sortie pour les marchandises nécessaires au pays, ça va vite être compliqué pour tout le monde. Il y aura à nouveau cette semaine 72 heures de grève dans tous les ports. Excusez-moi, j'ai un avion qui passe sur la tête. Je suis pas loin de la base militaire d'Istres, qui est une base de l'OTAN et qu'on aimerait bien voir fermée. Il y a toujours de la grève chez les cheminots, même si ça prend des formes plus diverses que dans d'autres secteurs. Évidemment, il y a un engagement.
Qu'est-ce que vous voulez dire par divers, une grève en pointillé, ben, c'est...
Certains sont en reconductible carré, c'est-à-dire 24 heures tous les jours. D'autres décident des 48 heures, puis reprennent le travail un jour ou deux, puis se remettent. Enfin, de toute façon, ça désorganise la chaîne logistique et d'échange. On a toujours dit la grève reconductible, c'est pas 24 heures, c'est l'accumulation de ces modalités de grève qui fera que la machine finira par s'arrêter. Évidemment, si on avait les moyens partout de s'arrêter et de pas reprendre, ça irait peut-être plus vite. Mais en attendant, il faut tenir compte aussi d'un certain nombre de réalités et du fait que certaines professions sont en lutte depuis très longtemps et que économiquement, qu'on le veuille ou non, ça pèse. Contrairement à ce que disent patronat et gouvernement, les salariés dans ce pays sont mal payés et ça se voit tous les jours. Donc, mais il y a toujours de la grève reconductible. Il y a des secteurs comme l'éducation où il se passe des choses aussi. Chez les territoriaux et le transport, vous avez évoqué les éboueurs à Paris. Nous, suite au 49.3, on est allé à la rencontre des salariés de l'incinérateur de Fos-sur-Mer, qui est l'incinérateur de la métropole marseillaise, qui brûle tous les déchets de la métropole marseillaise, et ils sont en grève depuis, si je ne me trompe pas, jeudi dernier. Les sachants en grève, ceux qui sont chargés d'acheminer les trains de poubelles jusqu'à l'incinérateur, se sont mis en grève aussi. Donc ça commence à s'étendre. Reste les éboueurs marseillais à gagner à grève. Mais ça semble un peu plus difficile. On renonce pas, on va continuer à aller les voir, on va discuter avec eux et on ne désespère pas de les voir entrer dans la danse. J'en oublie certainement quelques-uns. Il y a pas mal d'usines chimiques qui sont pour la plupart toutes reliées ou en tout cas dépendantes de production pétrolières. Donc, comme il n'y a pas de production, dans tous les cas, ça va compliquer leur fonctionnement. Mais beaucoup ont décidé d'être en grève sous différentes modalités, soit l'arrêt complet, soit l'arrêt des expéditions, c'est-à-dire toujours pareil, pas de produits livrés, ce qui crée des carences, voire des pénuries. Qu'est-ce qu'on a encore dans la métallurgie, il se passe des choses. Voilà, écoutez, ça se fait. On aimerait que ça soit plus étendu et que ça aille plus vite et plus fort, mais la grève générale, de toute façon, ça se décrète pas, ça se construit avec les travailleurs.
Mais justement,
pour en venir à ce que vous évoquiez, je pense pas qu'il faille chercher là aussi, comment dire, une prédominance de mode d'action sur un autre. Et encore une fois, il faut rien opposer. Même si, qu'on le veuille ou non, on sait qu'on a face à nous un gouvernement qui est aux ordres de la finance internationale, aux ordres du MEDEF, en tout cas pour ceux qui en restent. Et la seule chose qu'ils comprendront, c'est la perte de milliards et de milliards. À titre d'exemple, la grève de la fin d'année dernière dans le secteur de l'énergie a coûté, hors revendication, à EDF 1 milliard d'euros. C'est le prix qu'ils étaient prêts à investir pour ne pas répondre aux revendications de leurs salariés. Bon, les camarades ont tenu bon, les salariés ont tenu bon, il y a eu satisfaction sur un certain nombre de revendications qui touchent notamment au salaire et au pouvoir d'achat, mais ils ont été jusqu'à, en gros, investir 1 milliard d'euros pour casser le mouvement. Donc,
justement, c'est comme ça qu'il fonctionne. Vous pensez qu'en ce moment, la grève, les mouvements, les actions, les blocages en cours leur coûtent cher déjà?
Ça leur coûte très cher. On est tenu aussi par un certain nombre d'éléments qui touchent à la nature même des activités. Par exemple, vous pourriez vous demander pourquoi sur les ports et docks ne font pas plus que 72 heures par semaine. Tout simplement parce que passé ce délai cette durée de grève-là, l'ensemble des navires sont déroutés et les marchandises sont acheminées par la route, essentiellement, des pays comme l'Espagne, l'Italie et la Belgique, ce qu'ils sont en train de faire avec les carburants. Et donc, en fait, on appelle ça le low-cut, ce qui fait que les ouvriers, notamment, seraient sans travail, mais n'aurait plus de marchandises sur lesquelles peser, quoi. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais un port sans bateau ni coûte ni rapporte. Pour ceux qui font...
Parce que la petite musique... La petite musique sur les plateaux mainstream, c'est « Ah, mais vous voyez, le pays n'est pas à l'arrêt, on nous avait annoncé un impact sur l'activité de chacun, et en dehors des éboueurs qui sont très visibles, et des pénuries de stations d'essence, hein, qui est dans les files d'attente commencent à devenir très visibles, eh bien, finalement, le pays continue à avancer. Qu'est-ce que vous répondez à ça ?
Ah, je peux vous garantir que c'est de la propagande des médias à la solde de ceux qui nous dirigent. La réalité, c'est que quand on croise... Moi, j'ai fait un débat il y a quelques jours avec le représentant du MEDEF dans les Bouches-du-Rhône. Il était en panique de voir la grève s'étendre et de ce que ça allait leur coûter. Ça veut très bien qu'il y a un principe très simple qui peut sembler basique, mais les seuls créateurs de richesse, ce sont les travailleurs. Quand ils s'arrêtent de travailler, il n'y a plus une seule richesse qui est créée. Et ça, comme c'est eux qui en captent l'essentiel, ils mesurent bien que chaque jour de grève, c'est du dividende en moins pour cela. Et eux, ils le savent. Donc oui, la grève en cours leur coûte cher. Après, je redis, il y a aussi... de la détermination chez ceux d'en face, et ils sont prêts à investir des sommes importantes pour ne pas donner une victoire au monde du travail. Donc il faut atteindre ce niveau-là de coûts pour les faire plier. Et ça finira par le fait que le MEDEF appelle Macron pour lui expliquer, voilà, les quelques dizaines de milliards que tu voulais nous faire gagner, tu es en train de nous les faire perdre, arrête tout. Voilà comment ça va se passer. C'est pour ça que, y compris, j'entends, et à la fois la lucidité, la détermination de Richie, mais il faut aussi qu'on soit sur l'efficacité. Et l'efficacité, elle est, qu'on le veuille ou non, sur le fait qu'on soit capable de peser sur l'économie, avec un principe pour nous, c'est de ne jamais s'en prendre à l'outil de travail, parce que nous considérons qu'il est notre propriété et pas celui de l'exploiteur. Et qu'on le veuille ou non, des manifestations, même si ça peut sembler, alors je suis pas un spécialiste des manifestations à Paris, mais nous, on met un point d'honneur à manifester du point où on a décidé de partir jusqu'au point où on a décidé d'arriver, et de faire en sorte que personne ne nous en empêche. C'est un principe. Mais nos manifestations sont constituées essentiellement de travailleurs qui, ce jour-là, de travailleurs, de travailleuses, bien sûr, ce jour-là, sont en grève et font le choix de perdre une journée de salaire. Et pour certains, d'en perdre plusieurs parce qu'ils sont reconductibles. Voilà. Donc, faisons attention de pas opposer, parce que c'est souvent sur des éléments comme ça, qu'on arrive à se faire embrouiller. Et alors que, je le redis, tout s'additionne, tout se complète. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais...
Il me semble. Richie, on sait que le pouvoir, hein, tous les pouvoirs successifs, mais celui-ci n'y fait pas exception, ont très peur des mouvements de jeunesse et des turbulences que ça peut provoquer. On a vu que la répression était extrêmement dure. Hein, néanmoins, il y a des blocages qui sont annoncés. Hein, ce soir, il y avait Tolbiac, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous pensez que ça peut s'amplifier dans les jours qui viennent? Certains disent que dans ce cas-là, nous aborderions vraiment les rivages d'une crise majeure, ajoutée au blocage économique dont on vient de parler.
Oui, mais en tout cas, encore une fois, je le souhaite. Tout à l'heure, je vais rejoindre les camarades à Tolbiac qui commencent à s'organiser, qui ont voté ce matin à plus de 900 le blocage, enfin du moins l'occupation, la réquisition, pour reprendre leur terme de leur lieu d'étude, afin de le mettre à disposition des luttes. Et donc cela, je m'en réjouis profondément, parce que ça permet de libérer du temps, d'occuper un lieu, de pouvoir discuter, de pouvoir s'organiser, ce qui est fondamental à travers cette lutte, afin de créer de la manière la plus efficace, pour reprendre les termes d'Olivier, le rapport de force. Donc en fait, là où les jeunes vont se mobiliser, la raison pour laquelle ils vont se mobiliser, c'est qu'ils sont en train de prendre conscience que si on ne se bouge pas, parce que je fais partie de cette jeunesse, pour notre avenir, personne ne le fera à notre place. Et notre mobilisation, celle de la jeunesse, elle est vitale pour nous. Pourquoi elle est vitale? Parce que c'est notre avenir au sens de nos vies qui sont en jeu. C'est-à-dire que si on ne se mobilise pas, de une, on ne pourra même plus respirer un air sain, et je parle au premier degré, c'est-à-dire que l'on va vivre dans un monde qui sera invivable, qui ne sera pas viable, qui va brûler, qui va prendre feu, qui ne va cesser de prendre feu, d'être inondé, d'être malmené sur le plan écologique, parce que les gens qui sont au pouvoir détruisent notre planète au nom de la sacro-sainte finance et de leur objectif de maximisation des profits. Et par ailleurs, sur le plan social, là aussi, ils détruisent tout. Ils détruisent notre patrimoine social, notre sécurité sociale, nos services publics. Et donc, pour ces deux questions majeures, écologique et sociale, pour notre avenir social et écologique, il est vital pour nous de se mobiliser. Et moi, j'observe, je constate, en étant dans toutes les luttes, en étant mobilisé depuis le 19 janvier, puis depuis 2018, que notamment à travers ce mouvement social contre la réforme des retraites, les jeunes sont particulièrement mobilisés. Il y a une génération de lycéens, mais qui me rend euphorique, qui me donne beaucoup d'espoir, parce qu'ils ont une conscience politique qui est hallucinante. C'est-à-dire que la génération de lycéens qui est actuellement scolarisée, elle a vu... Ils ont vu, les lycéens et les lycéennes, leurs parents se faire tabasser pendant les gilets jaunes. Ils ont vu leurs aînés se faire gazer. Et ils se disent, mais on nous tabasse, on nous prend pour de la chair à canon, et donc levons-nous, organisons-nous pour défendre notre monde, notre avenir, parce que si on ne se bouge pas très clairement, l'avenir, notre monde de demain, il sera catastrophique, il sera cauchemardesque, il sera orwellien, autoritaire, totalitaire, mais je pèse mes mots, quand on voit le nombre de violations de droits fondamentaux qui ne cessent de proliférer à tout va et de manière éhontée de la part du gouvernement. Et donc la jeunesse a pris conscience de cela, et c'est la raison pour laquelle M. Macron a décidé de semer la terreur. C'est la raison pour laquelle il envoie la brave M, les unités de la CSI et de la BAC qui ne sont pas formées pour le maintien de l'ordre, posées contre des murs, des lycéens, en leur demandant de mettre la main sur la tête, comme le rapportent les images des reporters de QG notamment. C'est la raison pour laquelle, comme hier soir à Bastille, ils viennent me prendre en photo et me dire « espèce de trou du cul, on va t'avoir ». Donc voilà, aujourd'hui, le seul pilier, le dernier rempart de M. Macron, c'est sa police, sa milice du moins, au service de l'argent, car il est minoritaire. Et les jeunes ont pris conscience de cela. Et les jeunes, je peux vous assurer qu'ils vont massivement entrer dans la bataille et qu'on va la gagner, cette bataille. Et que le bras de fer, on va la gagner. Qu'on va gagner la bataille contre la réforme des retraites, mais qu'on va gagner par-dessus le marché la plus grande bataille, la guerre, si je puis dire, sans être dans un registre belliqueux, contre celles et ceux qui nous malmènent et qui nous maltraitent et qui nous condamnent à avoir un avenir cauchemardesque. Donc voilà, les jeunes prennent conscience de cela. Ils étaient 1 000, quasiment 1 000 000 en nager ce matin à Tolbiac. Ce soir, on prendra toutes et tous direction de Tolbiac pour aller les soutenir. À Jussieu, il y a eu une tentative de blocage, il y a eu des multiplications d'AG un peu partout en France, avec une cinquantaine d'établissements qui sont fortement mobilisés, des lycéens qui se mobilisent. Alors le pouvoir, il est terrorisé par cela, comme je l'ai vu, et il essaie de, comme je viens de l'évoquer, il essaie d'étouffer la contestation par le biais de la répression, mais aussi, et c'est beaucoup plus pervers et j'aimerais alerter à ce sujet, par deux autres moyens de pression. D'une part, par le biais du distanciel, c'est-à-dire que les cours ne sont plus annulés et plus banalisés, et donc on est obligé de suivre les cours en distanciel, ce qui fait que si on ne le fait pas et si on se mobilise, on sera pénalisé sur le plan des examens. Et la deuxième chose, c'est que pour les élèves et les étudiants qui sont boursiers comme moi, qui ne peuvent pas vivre déjà décemment avec leur bourse, mais qui sont condamnés à survivre dans des conditions misérables sans leur bourse, eh bien on les menace au bout de la troisième absence de supprimer leur bourse, et donc on les menace à l'indigence. Et donc c'est la raison pour laquelle la mobilisation, elle se fait timide pour le moment au niveau de la jeunesse, mais ce qui est sûr, c'est que dans les heures et les jours qui viendront, elle va s'amplifier et s'intensifier.
Où est-ce qu'il faut aller ce soir à Paris, Richie, pour les gens qui veulent continuer le combat ?
Alors là, pour le coup, je n'ai pas tout à fait les informations en direct parce qu'on est en train de discuter depuis tout à l'heure. Ce que je sais, c'est que j'ai des camarades qui se sont réunis place Vauban. Alors, on m'a informé que la place était encerclée par un dispositif policier qui est colossal et qui empêche les gens d'affluer aux abords de l'Assemblée nationale. D'ailleurs, il y a des barrières anti-émeutes qui ont été érigées, ce qui est encore une fois assez révélateur du fait que le pouvoir est minoritaire et qu'il tremble face au peuple qui majoritairement se met en branle. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a des étudiants aussi, des camarades étudiants qui se réunissent à Tolbiac en AG. Donc l'essentiel, c'est d'avoir la volonté de sortir dans la rue. Les lieux de rassemblement, on les communique notamment par l'intermédiaire de Peuple Révolté qui vise justement, du collectif Peuple Révolté qui vise à mettre en exergue les lieux de rassemblement un peu partout en France et notamment à Paris. Donc allez sur les boucles d'information, vous aurez les informations. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut rester mobilisé. Dès qu'on va terminer cette émission, je vais me rendre aux côtés des camarades. Il ne faut pas céder à la peur et à la terreur. Au contraire, face à la volonté de nous terroriser, il faut encore une fois, et je sais que je me répète, mais c'est extrêmement important, amplifier cette mobilisation. Il faut s'inscrire dans l'héritage. Et je le dis souvent là aussi, mais c'est extrêmement important. Et je le dis en tant qu'étudiant en histoire, parce que moi, l'histoire, elle m'apporte beaucoup, elle me permet de comprendre le pourquoi du comment on en est arrivé là aujourd'hui. Et j'aimerais, je souhaite en tant que jeune de 18 ans, que toutes et tous, on s'inscrive dans l'héritage des révolutionnaires de 89, des communeux, des communeuses, qu'on s'inscrive dans l'héritage des maquisards.
On vous entend moins bien, Richie. Bien, un petit. Le son a coupé à nouveau. Je vous laisse terminer votre développement et on va.
Ça a coupé, désolé, c'est les appels. Je disais qu'il faut s'inscrire dans l'héritage de toutes celles et ceux qui, à travers l'histoire, malgré leur condamnation à l'échec et à la misère et au péril, se sont levés et ont dit « Eh bien, nous sommes insoumis face à vos prédations, face au fait de vos volontés de domptation. » Et donc, voilà le choix qu'il faut faire aujourd'hui. Il ne faut pas se résigner, il faut avoir foi, il faut avoir beaucoup d'espérance au fait que si on se mobilise et si on s'organise collectivement, eh bien, le pouvoir, il est entre nos mains et on peut obtenir. On peut obtenir beaucoup. Donc, moi, le message que je dis à Monsieur Macron, c'est gare à la revanche. Parce que les pauvres, ceux que vous écrasez et ceux que vous méprisez, ils sont en train de se lever. Et vous allez prendre cher. Parce que vous nous avez méprisés. Parce que vous nous avez insultés. Parce que vous n'avez pas respecté ma mère et mon père et ma grand-mère. Les gens n'oublient pas cela. Et ils vont se battre pour la justice. Et aussi, parce que là, je suis beaucoup dans une logique de défense, mais allons au-delà de la défensive vis-à-vis de leur prédation et allons à la conquête de jours meilleurs et à la conquête d'un monde meilleur.
Olivier Matteu, on ne va pas tarder à vous laisser rejoindre la suite du théâtre des opérations. On s'était engagé à vous libérer à 20h. Quelle est la suite? Et puis j'ai quand même une question, parce que ce n'est pas une question de personne, ce n'est pas une question de petite magouille, c'est quand même une question de ligne importante. On sait que Philippe Martinez de la CGT va bientôt rejoindre son poste à Renault, un retour au travail, il ne part pas en retraite. En tout cas, il ne sera plus ce secrétaire général de la CGT. Vous êtes en lice dans cette succession hein, pour des questions de ligne profonde. Or, je l'entendais pas plus tard qu'hier en direct interviewé sur BFM et il avait l'air de vouloir désormais mettre en avant les luttes féministes, les luttes écologistes et dire que certains, il n'a pas donné de nom, mais certains au sein de la CGT voulaient faire revenir la CGT 40 ans en arrière. J'ai senti quand même possiblement que vous étiez visé, vous et d'autres. Qu'est-ce que vous répondez à ça et comment vous voyez la suite et l'impact de cette bataille actuelle sur l'avenir de la CGT?
Écoutez, on a gagné à peu près 30 ans. La dernière fois qu'il a essayé de dater le retour vers lequel on voulait aller de la CGT, c'était dans les années 50. Mais bon, des quelques millions d'adhérents à cette époque-là et en capacité de plus fortement pour les choses qu'on est aujourd'hui. Ce combat que semble définir Philippe Martinez dans la CGT n'existe pas. La CGT n'a pas d'autre choix que de chercher à être toujours plus et toujours mieux l'outil des travailleurs, l'outil des exploités, des opprimés, pour aller à la conquête de droits nouveaux et à l'efficacité absolue dans la défense de ce qui nous reste comme acquis et comme conquis sociaux. En partant de là, la CGT a besoin de reconstruire un projet politique. Quand je dis un projet politique, bien entendu, c'est au niveau syndical, qui donnera à la fois l'ensemble des moyens nécessaires aux travailleurs pour s'en sortir, mais pour cela, surtout, l'ensemble des clés de compréhension pour construire toutes les conquêtes futures et les arguments pour défendre, je le redis, ce qui nous reste de droit. Partant de là, il ne s'agit pas de porter le modernisme ou la nouveauté de manière superficielle, mais d'être bien, encore une fois, d'un combat global parce que nous subissons une attaque globale contre l'ensemble de notre modèle social, contre l'ensemble des droits des travailleurs, des femmes, des hommes, et on a besoin d'être, nous, porteurs de cette riposte globale. Refuser de le faire en essayant d'opposer ceux qui considéreraient qu'il n'y a rien de moderne à accepter des plans de départ volontaire, des fermetures d'usines, la stagnation des salaires, en opposition à ceux qui seraient modernes parce qu'ils iraient peut-être un peu plus sur ce qui relèverait des luttes sociétales, c'est à la fois très réducteur et à mon avis, ça place les uns et les autres, encore une fois, en situation de s'opposer en fonction du genre, en fonction des objectifs politiques portés par les uns et les autres dans notre organisation, et ça, en réalité, lève de la force au mouvement social dans son ensemble. La société vers laquelle nous devons cheminer et que nous avons construire, qui prendra en compte tous les enjeux de notre temps, elle doit être construite avec toutes celles et ceux qui la composent. J'essaie de pas être trop long ni trop langue de bois, mais on a besoin de sortir du capitalisme et rapidement. Pétier a rappelé un certain nombre d'enjeux. Ils feront sauter la planète pour se gaver jusqu'au dernier centime qu'ils pourront faire. Il y a urgence là maintenant à construire un socialisme à la française, une société débarrassée de ce système capitaliste qui de toute façon se nourrit de la misère, de l'exploitation et de la division de notre camp. Ce qu'il faut, c'est rassembler notre camp. Et notre camp est constitué d'hommes et de femmes, porteurs d'un certain nombre de valeurs, de conceptions et d'objectifs communs. Essayer de nous opposer par le genre, c'est participer à l'affaiblissement de notre camp. Et ça, non seulement les hommes et les femmes en pâtiront, mais y compris notre planète. Il y a des choses qui évoluent dans la société. La CGT doit les prendre en compte, il n'y a pas de souci, mais il ne faut pas oublier non plus que la CGT, elle est composée d'hommes et de femmes qui vivent dans la société et qui subissent ou qui impriment ces changements et ces évolutions. Donc, essayer de faire passer, je sais qu'on a été traité de climat-sceptique, ce qui est quand même le courant de Trump, hein, de machiste.
Alors, je vous interromps une seconde, l'image s'est figée. Et on vous entend très bien, mais l'image s'était figée. Là c'est reparti.
Ouais. D'accord. Oui, je vous disais, on nous a traité de climato-sceptiques et de machistes. Moi, j'invite toutes celles et ceux qui le souhaitent à venir vérifier si dans les Bouches du Rhône, on peut être un dirigeant homme et machiste en connaissant les militantes de la CGT, leur engagement et leur courage et leur détermination à ne pas se laisser faire devant qui que ce soit. Donc, c'est complètement absurde de jeter l'anathème comme ça gratuitement. Ça aide pas le débat, ça élève pas le débat. Et c'est pas de ça dont nous avons besoin. Voilà, on a besoin de rassembler la CGT, pas pour qu'elle vive pour elle-même, mais bien pour qu'elle soit l'outil de l'émancipation des travailleurs et un repère pour cette jeunesse qu'évoquait Richie et qui se construit dans le combat et qui aura de toute façon très rapidement à participer à la construction de la société nouvelle vers laquelle nous devons aller. On a besoin de redéfinir un certain nombre de besoins et donc de redéfinir, y compris au niveau industriel, de quelle manière on y répond. Et ça, si on ne lève pas la main aux capitalistes sur les outils de production et sur la définition des besoins, on ne s'en sortira pas. Donc, quand on est à la CGT, on peut être, entre guillemets, productiviste, mais dans le sens de produire pour répondre aux besoins qu'on aura définis ensemble en étant débarrassé des conceptions portées par le capitalisme. Je ne sais pas si je suis clair, mais cette responsabilité, la CGT, elle emporte une grande partie et on n'a pas besoin d'être divisé, on n'est déjà pas assez.
Et vous pensez que votre ligne peut s'imposer à la CGT compte tenu de la radicalisation générale? Je dis radicalisation au bon sens du terme, hein. Pour moi, ça n'est pas du tout…
au sens du retour à la racine?
Oui, absolument. D'accord.
Pour permettre qu'il pousse un bel arbre avec des branches qui permettent de s'abriter dessous et de se nourrir des fruits que le produiront.
Oui.
Écoutez, si on le prend comme ça, je vois pas pourquoi. En tout cas, la période nous démontre que l'attente vis-à-vis des organisations syndicales, elle ne se situe pas dans le compromis, dans la compromission, dans le réformisme et l'accompagnement. Voilà. Ensuite, comment je peux dire? Il existe dans le paysage syndical français une offre diverse et variée qui devrait permettre normalement à ceux qui portent l'accompagnement et le renoncement de se trouver ailleurs que dans la CGT, mais toujours dans le syndicalisme. Voilà, que chacun soit à l'aise, hein, on peut divorcer, c'est pas forcément synonyme de tuerie et de drame. Si on ne s'entend plus, on prend un autre appartement qui nous correspond mieux. Je ne sais pas comment le dire, mais c'est la CGT, elle n'est pas construite d'ailleurs par sa structuration elle-même. Elle est faite pour aller au combat contre le capital et porter la transformation de la société en s'appuyant sur la lutte au quotidien pour la défense des intérêts des travailleurs. Vouloir en faire autre chose, c'est transformer l'outil au service des travailleurs en outil au service de plus personne en réalité et au final, du capital.
Merci beaucoup, Olivier Matteux, pour toutes ces précisions, pour votre réaction à chaud, hein, bien sûr aussi, sur ce nouvel échec parlementaire. Merci, Richie. Merci beaucoup pour ta présence ce soir, une fois de plus, à nos côtés.
J'en suis ravie. En espérant la victoire de la rue face à l'échec du parlementarisme.
Absolument, une fois de plus.
Voilà. Mais on a gagné déjà. Là, maintenant, il faut transformer l'essai, mais on a gagné.
Très bien.
On a gagné. Là, maintenant, il faut l'acter et on passe au combat suivant.
Très bien.
En tout cas, si je peux dire un mot aux jeunes qui nous ont écoutés ce soir, voilà, on est parfois difficile à bouger parce que... y compris on est plein les uns et les autres de convictions et parfois de certitudes, mais n'hésitez pas à tout bousculer.
On n'hésitera pas.
C'est votre...
un petit mot, si je puis me le permettre, à Olivier, pour dire que lorsque je vois et lorsqu'on voit la presse bourgeoise te calomnier et t'invectiver, ça engendre chez nous une confiance supplémentaire.
mais je le vis comme ça aussi. Voilà, ça peut piquer de temps en temps, mais tant que c'est ceux-là qui me critiquent et qui essayent de me salir, et moi et mon organisation et les combats qu'on porte, je me dis que je suis du bon côté de la barricade et mon organisation avec.
C'est vrai qu'on constate aussi qu'Olivier Matteux est en train de gagner une grande confiance populaire, hein, dans des milieux très variés. Merci à tous les deux. La soirée se poursuit, hein. Il n'est que 20h et je vous invite tous à continuer la soirée sur les réseaux de QG, Twitter, Telegram et Facebook, notamment Twitter, hein, où nos vidéos depuis 4 jours sont vues dans le monde entier, je ne plaisante pas, notamment dans toute la gauche américaine qui les partage abondamment, hein, par plusieurs dizaines de millions de personnes. Et merci encore et faites attention à vous. Et je vous dis à très bientôt, Olivier et Richie. Merci encore.
Avec plaisir. Allez, bon courage à tous et à toutes.